Minuit passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne qui continue jusqu'à 1h du matin en direct du studio Coluche, rue des Cévennes. Vous pouvez toujours nous joindre au 39 21 50 centimes d'euros la minute ou nous envoyer, comme vous le faites ce soir, nombreux pour poser des questions, pour commenter ces témoignages. Le témoignage de Martine tout à l'heure qui a suscité beaucoup de conseils de votre part, une grande tendance se dégageant bien évidemment pour que Martine se rapproche d'une assistante sociale. Martine va pouvoir s'entretenir avec Elisabeth qui est médecin spécialisé dans l'accompagnement de malades comme le mari de Martine. Donc nous vous tiendrons au courant, bien évidemment. Nous sommes pour l'instant avec Bernard qui évoque avec nous des sommes détournées par... Alors, ces sommes ont été détournées par une aide ménagère, hein, c'est ça Bernard ?
Voilà, c'est ça, oui. C'était une personne qui était qui faisait partie du CCS du coin où habite mon beau-père. Et elle était mise pour assister mon beau-père dans les soins de ma belle-mère qui était en phase de fin de vie. Et à l'issue de son décès, eh bien, mon beau-père a conservé cette dame-là pour continuer les faits ménagers dans la maison, le lavage, les repassages, pour l'assister. Et cela, ça a duré 6 ans. Et puis, durant cette période-là, cette personne-là a bien cogité de telle façon à obtenir les éléments bancaires, Internet, de telle façon à procéder à vider les comptes annexes, à le mettre sur le compte principal, et puis à se faire des chèques de 1000, 3000, et ainsi de suite. Et quand on fait le relevé total de l'ensemble des fonds qui ont été retirés, eh bien, moi, j'avais évalué à une centaine de milliers d'euros. Et à titre d'exemple, quand on voit qu'il y avait à un moment donné, sur par exemple le CCP en juillet 2015, il y avait 21 euros, livré à 17 euros et livré d'épargne populaire 187 euros. Et puis j'étais tombé sur un document CNP Assurance au 30 juin 2010, il y avait 43 000 euros et puis voilà. Donc l'évaluation que j'en avais faite et il manquait 35 relevés de compte. Voilà la situation. Alors, à l'issue de ça, forcément, c'était comme on avait déposé plainte, on s'est dit, avec la famille, on va être tranquille pendant un bout de temps, et puis ainsi de suite. On s'était rapproché de lui pour essayer de renouer les liens, que ce soit mes beaux-frères, mon épouse et moi, mes enfants. Et c'est qu'en 2015, eh bien, rebelote, on a été averti comme quoi il y a eu de nouvelles fréquentations et qui ont causé exactement les mêmes choses, mais c'est des personnes indépendantes. On ne sait pas comment ils ont pu prendre contact avec notre beau-père. Toujours est-il qu'il y a eu des sommes faramineuses qui ont été encore détournées. Et entre le 9 avril 2015 et le mois de juillet 2015, eh bien, il y a eu quand même 59 chèques émis avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et la particularité, c'est que durant cette période-là, il y a eu 59 chèques ont été émis avec des avis de la Banque Populaire, avec 5 courriers disant que seul débiteur interdit d'émettre des chèques pendant 5 ans. 5 courriers comme ça, du mois de mars au mois de juillet, et la Banque Populaire n'a absolument rien fait. Alors moi, je pose la question. Est-ce que la Banque Populaire n'a pas la possibilité de faire intervenir la force publique de telle façon à faire retirer l'échec auprès de M. Mettaux et des personnes qui jouaient avec lui dans ce domaine-là? Et en plus, ces personnes-là, ce qu'elles faisaient, elles avaient ouvert les chèques emploi-service.
Si, ce sont les chèques emploi-service, non?
Voilà, c'est ça, les chèques emploi-service. Et puis, se facturer, son mari ou pas, on n'a aucun élément les concernant. Donc, ils ont, et puis c'est des ils se facturaient des 1 500, des 1 000, et chacun, et ainsi de suite. Donc, on a procédé, j'ai averti le procureur de la République, j'ai averti la juge de la situation.
Mmh. Et vous l'avez prévenu il y a combien de temps, en fait, vous avez...
2015.
Et rien n'a bougé depuis ? Rien ?
Absolument rien n'a bougé. Rien n'a bougé. C'est alors, on a averti le procureur de la République, j'ai averti la juge, et c'est pour ça que j'ai fait une demande de mise sous protection, j'avais initié une procédure de sauvegarde de justice en urgence, de telle façon à arrêter tout ça. Donc, on s'est plié aux exigences de la juge, de telle façon à faire tous les documents qui étaient nécessaires. Mais le plus qui nous tracassait, mon épouse et moi, et puis mes beaux-frères, c'est que mon beau-père, âgé de 86 ans, on l'a entendu dans le patelin, comme quoi il conduisait de façon irraisonnée. Dans la semaine 36 de 2015, je voulais obtenir plusieurs écrits de ce fait, faire une enquête auprès des voisins, auprès des maires des petits patelins, toutes les personnes que je pouvais avoir comme témoignage. Et bien sûr, aucune personne n'a voulu me faire le nécessaire de telle façon à ce qu'on puisse lui relever son permis. Il aurait pu éviter un accident, on ne sait jamais quoi. Et donc, je n'ai absolument rien obtenu. Alors, bien souvent, on dit... Le Gaulois, il parle beaucoup après, il parle pas avant, mais quand le problème intervient, ben là, le Gaulois, il parle, hein, il sait parler, quoi. Voilà. Mm-hmm. Alors, dans ce résultat, l'an dernier, au mois de janvier 2019, donc l'an dernier, de la procédure lancée en 2012, on n'a eu aucune information du procureur de la République. On n'a pas eu de résultat, on n'a pas eu de jugement, et ainsi de suite. Alors, ce qui m'a commencé à m'énerver, c'est qu'au mois de janvier 2019, je reçois, alors parce que mon beau-père, il a été mis en maison de retraite, mm-hmm. parce que, vu avec la curatelle, il était impossible de vivre chez lui. Enfin bref, ils l'ont mis en maison de retraite à 2 kilomètres de chez lui, et forcément, la maison de retraite, eh ben, il faut la payer, la maison de retraite. Alors, mon beau-père, lui, il avait des champs, et qui sont exploités par mon beau-frère, et puis ma belle-mère décédée, ces terres qu'elle avait héritées de ses parents étaient exploitées par mon beau-frère. Et la succession de ma belle-mère qui est décédée en 2006 n'avait toujours pas été faite au mois de janvier 2019. Rien n'avait été fait en ce qui concerne les successions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit au procureur de la République, à nouveau, comme quoi, à cette date-là, on n'avait toujours rien de sa part. J'ai averti la juge, et ainsi de suite. Mais la chose, c'est que je reçois un courrier au mois de janvier 2019 du président de la Chambre maritime, me demandant mon patrimoine et mon pédigré.
De quoi ? Pardonnez-moi, je vous ai mal entendu.
Oui, je reçois un
courrier. Oui, ça j'ai compris, mais vous demandant quoi ?
Et me demandant mon patrimoine et puis mon pédigré, ce que je fais, ma profession et ainsi de suite. Et puis celui de mes enfants en plus.
C'est très curieux.
Oui, parce qu'il fallait payer probablement la maison de retraite et donner une part, alors que la succession n'était faite et rien n'avait été fait. Donc là, bien sûr, moi, comme j'ai répondu au président du département de la Charente-Maritime, j'ai dit, moi, je ne vais pas me soustraire à la législation en ce qui concerne ce domaine-là, parce que je trouve ça bien, mais dans la situation, je lui ai montré la dizaine de pages que j'ai envoyées au procureur de la République et au juge, comme quoi au mois de janvier 2019, on n'avait aucun résultat de l'ensemble. et que je donnerai mon pédigré, mon patrimoine, mais je donnerai en aucun cas le pédigré de mes 3 enfants et leur patrimoine. Mes enfants étaient élevés dans l'honnêteté. Il est hors de question que mes enfants payent pour toutes ces personnes-là qui ont extorqué plus de dizaines de milliers d'euros, plus de 100 000 euros. Alors, la mouche m'a piqué. Ce que j'ai fait, je voulais adresser l'ensemble du dossier à l'Assemblée nationale, au ministre de la Justice. Donc, j'ai envoyé le dossier à l'Assemblée nationale et il m'a été répondu que mon dossier avait attiré l'attention, que mon dossier relevait d'un litige juridique.
Parlez bien dans votre combiné, Bernard, parlez bien dans le combiné, parce que quand vous vous rapprochez trop, voilà, comme ça.
Voilà. Alors, ils m'ont répondu que mon dossier relevait d'un litige juridique et me conseillait de prendre attache auprès du délégué des défenseurs des droits.
Oui, oui.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis attaché à prendre contact auprès des défenseurs des droits et j'ai eu une personne du conseil du défenseur des droits et je lui ai expliqué l'ensemble du dossier. Je lui ai remis tous les documents que j'ai adressés au procureur, au juge, mis sous tutelle et ainsi de suite. Et la réponse a été simple. Hein. Il vous appartient de recontacter. Alors il m'a mis comme ça, que conformément au code 40 du code de procédure pénale et ainsi de suite, c'est au procureur de la République qui est seule compétence pour donner le résultat de tout ça. Donc,
oui, mais ça ne bouge pas depuis quand même un bon bout de temps. Donc, vous expliquez ça, c'est bien joli, mais bon.
Oui, alors le courrier du défenseur des droits date du 20 mai 2019. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à nouveau au procureur de la République en mettant référence de ce que le défenseur des droits m'avait conseillé de faire. Et effectivement, quelques temps après, j'ai reçu un courrier du procureur de la République, parce que ça l'avait probablement piqué, mais c'est quand même anormal que presque 10 ans après, aucune information nous ait été communiquée, que ce soit à mes beaux-frères, à mon épouse et moi-même. Alors, toujours est-il que la mouche a piqué le procureur de la République et j'ai eu un courrier au mois de juillet 2019 me joignant à le résultat de comment le tribunal me donnant le jugement en correctionnel. Alors, la particularité de sa réponse du procureur, c'est que quand je lis le jugement et puis l'affaire de mon beau-père, eh bien le jugement ne correspond en rien avec la situation de mon beau-père. Parce que mon beau-père, il s'agit de détournement de fonds, abus de faiblesse, et le jugement qui m'a été joint, eh bien ça concerne des violences avec usage, menaces d'armes suivies d'incapacité, et ainsi de suite, qui n'a rien à voir avec le dossier de mon beau-père. C'est hallucinant de voir des trucs comme ça. Voilà.
Surtout, en fait, ce que je voulais vous demander par l'intermédiaire du 739-21, je me fais le porte-voix d'Yvette, qui me demande qui commandait les chéquiers, car pour émettre autant de chèques, la banque cautionnait cela, en fait. C'est une question d'Yvette.
Moi, vous savez, mon beau-père avait rejeté tout le monde. Il y avait des personnes qui grenouillaient. Bon, la première personne du CCS qui a grenouillé, eh bien, je ne sais pas pourquoi, apprenait l'échec ou lui donnait, j'en sais de rien, quoi. Hein. Donc, seul le résultat nous a été connu, nous on a pris connaissance de ça. Et puis, la deuxième phase, une fois qu'on avait déposé plainte, eh bien, on remet une louche avec d'autres personnes. Hein, mais eux avaient fait des chèques, je ne sais pas comment ils faisaient là. Et puis, est-ce que mon beau-père demandait des chèques auprès de la banque populaire, la banque postale ou un truc comme ça? on ne sait pas.
Ouais. En tout cas, il y a bien un organisme qui cautionnait l'envoi de ces chéquiers. Vous voyez, je pense que c'est ça.
Oui, bien sûr. Donc, vous
n'avez pas mentionné dans vos plaintes la banque. Est-ce que ça vaudrait le coup aussi de se retourner contre la banque à un moment ? Parce que ces chèques, ils les recevaient bien à débiter. On parle de 100 000 euros, c'est énorme.
Ah oui, c'est énorme, et surtout qu'il y a eu une deuxième couche avec d'autres personnes. Alors, c'est pour ça, quand j'écris à la juge et au procureur de la République, est-ce que la Banque Populaire n'a pas les moyens de mettre son nez et savoir le pourquoi, de faire retirer les chèques éventuels suite aux différents documents interdits bancaires pendant 5 ans. On le fait une fois, on le fait deux fois, mais quand on le fait plus d'une dizaine de fois sur plusieurs mois, on commence à s'inquiéter. La responsabilité de la Banque Populaire, où est-ce qu'elle est ?
La Banque Populaire a été mise au courant très tôt de vos déboires,
disons que nous, on a demandé à avoir des exemplaires de chèques.
Des chèques, oui.
Pour connaître la signature de la personne qui a signé. Alors, mon beau-père, lui, avait des problèmes aux mains. C'est un agriculteur, donc il avait... Et puis, à l'âge de 86 ans,
il a toute sa tête, quand même, votre beau-père
À l'époque, il avait quand même toute sa tête.
D'accord.
Moins maintenant, hein, parce que...
Enfin, on est dans quand même de l'abus de faiblesse, quoi qu'il arrive, même s'il avait toute sa tête. Voilà. C'est donc plus qu'une aide ménagère. Il y a eu plusieurs personnes qui sont entrées dans la combine, si j'ai bien compris.
Alors, il y a l'aide ménagère avec son époux.
Ouais.
Et puis, il y a eu un autre couple, une fois que la personne, elle avait été convoquée par la gendarmerie et ainsi de suite. Mais après, on n'a eu aucune information du résultat de ce que la gendarmerie a fait auprès du procureur. Nous, on a été avertis de rien. Pourtant, c'est pas le faute des courriers que j'ai envoyés et passé les procédures envoyées et ainsi de suite. J'ai demandé des avis avec accusé réception, jamais rien. Mmh. Voilà. Alors, il y a des fois...
Ça vaudrait le coup quand même, Bernard, de porter plainte contre la banque aussi. Hein. Je suis en train de...
Olivier, voyez, je ne crois plus en la justice.
Non, mais vous pouvez, parce que c'est tout de même incroyable, votre histoire. D'entendre que votre beau-père a sans doute travaillé toute sa vie, hein, la terre,
oui.
Qu'il a mis ses économies de côté et qu'il se fasse piller comme ça et que la justice ne soit pas capable, encore une fois, de condamner les personnes qui ont volé de l'argent, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, purement et simplement. C'est totalement hallucinant d'entendre ça encore.
Oui.
Et que la banque, et que la banque ne se soit pas inquiétée de voir autant de chèques et des montants comme ceci. Bon, alors, je sais déjà ce qu'ils vont vous dire. Hein, ils vont vous dire, on ne va pas surveiller chaque compte en banque et s'étonner de voir des chèques emploi de 1500. Mais enfin, déjà, des chèques emploi de 1500 euros sont des montants quand même importants pour ce type de chèques.
Excusez-moi, Olivier, j'ai dit Banque Populaire, c'est la Banque Postale, pardon.
La Banque Postale, d'accord. Ah oui, qu'on se trompe pas.
Ah oui. J'ai dit, parce que j'avais vu autre chose, là, mais c'est la Banque Postale, voilà, excusez-moi.
D'accord. Bon, voilà. Non, mais c'est... Non, mais voilà, c'est la Banque Postale, donc c'est la Poste, clairement.
C'est ça, oui. Voilà.
Donc on est dans une banque administrative. Hein. La Poste, c'est l'administration encore. C'est à moitié privé, la Poste, ou vous savez,
mais
non
mais voyez, c'est pas difficile à savoir. Le truc, c'est que moi, j'ai pas envie de prendre un avocat. Je me suis déjà fait rouler par un avocat il y a une dizaine d'années. Je ne vais pas remettre une louche et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas envie de payer pour des avocats qui se graissent la patte sur des pauvres gens et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas envie de... Vous voyez, entre guillemets, je suis un ancien de la marine. J'ai fait 27 ans de la marine. J'ai navigué au temps. J'ai fait des missions dans tout le monde et ainsi de suite. J'ai déjà administré les marins à terre, en mer, les avions, les sous-marins et ainsi de suite. Et quand j'ai quitté l'institution, j'ai travaillé 10 ans dans le civil à Lorient. Hein, il y a eu changement d'entreprise qui a pris la société. Et résultat, l'entreprise a mis un de ses gars. Ses gars a voulu mettre son épouse. Et résultat, j'ai fait un AVC. Et 3 jours après d'être venu au travail, eh bien, on m'a proposé de résilier mon contrat. J'ai refusé et ça a été un harcèlement pendant 3-4 mois. Et mes enfants m'ont dit, papa, quitte, va-t'en, parce qu'ils vont te tuer. J'ai pris des avocats au conseil des prud'hommes. J'ai perdu. J'ai fait appel à Rennes. J'ai perdu. Évidemment, les deux avocats, la grosse société et le mien, ils rigolaient ensemble. J'ai perdu. On m'a dit, si vous voulez aller à Paris, eh bien, ça va vous coûter tant. Donc, vous voyez, j'ai déjà donné. Et quand je vois plein de personnes comme ça au conseil des prud'hommes et ainsi de suite, ma collaboratrice a été pareil. Donc, les avocats, la justice, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ?
Ben, à votre place, je pense que je serais assez découragé, hein, Bernard. Ça semble totalement incroyable. Aujourd'hui, vous voyez, je vais faire un comparatif. Hein. On va aller mettre en prison un gamin qui vole une moto. On va aller mettre en prison un gamin qui fait un cambriolage.
Oui.
Hein, tous ces jeunes à qui on fait pas de cadeau. Hein.
Oui.
Même si on évoque souvent la justice des mineurs et tout ça, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de jeunes gens qui, à un moment de leur vie, font des petites bêtises, ou en tout cas des bêtises qui ne sont pas très plaisantes, bien évidemment, pour les victimes, et qui doivent être punies. Mais vous parlez ce soir quand même d'une somme de 100 000 euros qui a été volée à un honnête homme, hein, qui en plus à ses 86 ans et que rien ne bouge. Comment on peut penser que, enfin, on marche sur la tête? Comment, vous voyez, que ça paraît totalement incroyable. Et donc, à qui maintenant demander justice? À qui, à quelle porte aller frapper? Vous allez aller voir le député de votre circonscription, il va vous recevoir, il va vous écouter, il va vous dire oui monsieur, je vais faire... Et puis bon, on sait...
On sait comment ça se passe.
Voilà, c'est malheureusement... Voilà, ça me paraît complètement incroyable que en plus des personnes âgées, on sait que sur la fin de vie, on a besoin, elles ont besoin de cet argent pour ne serait-ce que pour l'EHPAD, pour tout un tas de choses.
Absolument.
Et là, on parle d'un vol caractérisé, d'une escroquerie, en plus de l'exploitation d'une personne en situation fragile, en tout cas, parce
absolument.
Que il doit faire confiance à tout le monde. Ça doit être un gentil monsieur, et puis il devait l'adorer, son aide ménagère. Il a rien vu.
Ouais. Et la particularité, je vais finir là-dessus, Olivier, c'est que on a parlé de mes deux beaux-frères, mais j'ai un petit beau-frère qui lui est sourd, muet et non-voyant, qui était dans une institution à Poitiers. Et en 2013, lors d'un déplacement du côté de Poitiers, je suis allé voir, j'avais un déplacement familial, j'avais demandé, j'avais pris correspondance avec l'hôpital psychiatrique à Poitiers pour aller voir mon petit beau-frère.
Oui.
Et ma réponse avait été négative. Alors j'ai dit, mais pourquoi ? Alors, on n'a pas voulu me donner de réponse. C'est terrible, ça, quand même. Ouais, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris contact auprès de la tutelle de mon petit beau-frère et je lui ai expliqué la chose. Eh bien, grâce à elle, le lendemain, j'ai réussi à voir mon petit beau-frère. Je suis allé avec ma mère le voir. J'étais reçu dans une espèce de cuisine qui était infâme et on m'a amené mon petit beau-frère. Mon petit beau-frère, j'ai énormément d'affection avec lui. Et forcément, quand on parle avec la langue avec les mains, quoi. Hein. Et c'était dans un état pas possible. J'avais le cœur serré, les yeux mouillés quand j'ai vu ça. Et puis, j'étais en colère pas possible. Je suis resté une dizaine de minutes et je suis parti. J'ai rendu compte à la tutelle de mon petit beau-frère. Et j'ai eu l'agréable, la très agréable surprise, c'est que 6 mois après, elle avait fait le nécessaire pour envoyer mon petit beau-frère dans les Côtes d'Armor, dans un endroit où mon petit beau-frère vit dans des conditions humaines et entouré de personnes compétentes et remarquables. Mmh. Et des personnes comme ça, je l'ai, j'ai fait connaître à tout le monde, tout ça, et tout le dossier, que, parce qu'il est concerné également, mon petit beau-frère, dans toutes ces affaires. Et j'ai mis en copie toutes les autorités qui gèrent l'établissement. Mmh. Voilà. Mais bon, des personnes comme ça, il n'y en a pas 36 000 dans notre pays.
Non, non. Et pour une fois qu'on entend sur cette antenne une tutelle qui marche, ça fait du bien aussi de l'entendre, parce qu'il y a tout un tas de personnes qui prennent cette mission de tutelle très au sérieux. Moi, je suis toujours très étonné d'entendre parfois, voilà, des... Bon, mais on appelle aussi beaucoup plus sur cette antenne pour parler de dysfonctionnement aussi, de choses, de problèmes, voilà, hein, qui sont créés par des gens qui... Mais la plupart des tutelles fonctionnent. Non, mais c'est triste d'entendre ça et de voir que ça n'avance pas, sûrement parce que, voilà, quand je pense en plus qu'on vous demande aussi à un moment votre situation à vous, celle de vos enfants, là par contre, on se dit que pour vous faire payer, ça marche beaucoup plus facilement, plus vite tout cas.
Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que, bon, il y a un beau-père d'un côté là qui est en maison de retraite là. Bon, il a des difficultés de santé en ce moment parce qu'il a 89 ou 90. Mais moi, j'ai ma mère qui a 91 ans. Il y a 11 ans, mon beau-père est décédé. Il habitait à Saint-Jean-d'Angély. Et puis ma mère était du côté de Poitiers. Et soit, enfin, peu importe, hein, en 2013, ma mère ne pouvait pas rester seule du côté de Poitiers. Je l'ai ramenée ici à Guidel pour être près de chez moi, parce qu'il n'y avait personne. Donc je l'ai mise à 2 kilomètres de chez moi, à 3 minutes de voiture, je suis dans son appartement, tout confort, tout sécurisé. Et puis, je me suis occupé d'elle pendant 7 ans, administration, logement, les courses, les médecins, les problèmes de nuit, l'hôpital et ainsi de suite. Enfin, tout ça, j'ai fait avec mon épouse, on a soigné tout ça. Et puis, du jour au lendemain, on décide, suite, parce que le Covid, le coronavirus, le confinement, ça n'a pas aidé. Donc, arrivé à un moment donné, ma mère, elle avait plus envie de rester là. Elle voulait retourner dans les Charentes, près de sa famille. Bon, ben maintenant, elle est dans un EHPAD, là. Mais on ne va pas tarder à me demander mes finances pour payer la maison de retraite. Alors que j'ai, pendant 7 ans, je me suis occupé d'elle, de A à Z, l'administration, un truc comme ça. Ça n'a coûté que mon temps et ma patience, et ainsi de suite. Et voilà, c'est comme ça que ça marche dans ce pays. Oui, c'est dommage, oui. on a un très beau pays. Les Français, ils ne savent pas ce qu'ils ont comme chance d'être dans ce pays. Vous voyez, moi, j'ai fait quasiment 3 fois le tour du monde. Oui. J'étais aux États-Unis, je suis allé en Afrique, je suis allé aux États-Unis.
Oui. Vous avez vu donc que nous sommes gâtés ici.
Ah ben oui, et puis tout le monde critique, à tout va, ne respecte rien. Moi, ça me
comprends. Alors, Bernard, Lamine, au 739-21, vous dit que sans l'aide d'un avocat, il y a de grandes chances que la justice n'avance pas.
Elle fera fi de moi.
Parce qu'elle attend les justiciables avec leurs conseils. Et puis, il y a Florian, rappelez-moi le prénom de... Il y a une auditrice qui s'appelle Danielle et qui vous conseille de vous rapprocher quand même de l'AFUB, qui est l'Association française des usagers de banque. Mais bon, ça vaut le coup peut-être de se rapprocher d'une association telle que celle-ci, même si j'ai des amis qui ont eu un souci avec une banque et qui s'en sont rapprochés et qui n'ont pas vraiment été aidés. Donc je me demande dans quelles conditions vraiment cette association... aide les usagers donc, qui sont mécontents des services de la banque. Mais ça vaut quand même le coup de oui. de vous rapprocher de cette association, l'AFUB.
Hein, alors, excusez-moi, Olivier, ça s'appelle là ?
Ça s'appelle l'AFUB, A-F-U-B, c'est l'Association française des usagers oui. de banques.
Ah, d'accord.
Et ça vaut le coup quand même que vous leur exposiez tout ça, parce que si la banque a failli à son rôle,
oui.
eh bien, elle saura vraiment, cette association saura vraiment vous donner la marche à suivre, sans doute avec un conseil pour que votre beau-père soit remboursé. Il doit y avoir de toute façon quelque chose à faire, ça n'est pas possible. Et pour ces sommes, bien évidemment, ces sommes maintenant, parce que ça commence à dater maintenant.
Bien sûr, mais le dossier n'est pas clos, pour moi il n'est pas clos. Tant que je n'ai pas de résultat, surtout qu'avec un résultat du procureur, avec un jugement qui ne correspond en rien avec le dossier qui a été initié. Mmh. C'est ça, c'est affolant. Mmh. Bien, je vais vous remercier vivement, Olivier. Moi, je suis vos émissions et mon épouse avec une oreillette. Ça nous sert à nous endormir le soir.
Écoutez, tant mieux, tant mieux. Je suis ravi de savoir que ça vous, voilà, que ça vous accompagne et que vous êtes là tous les soirs.
Je vous remercie et puis félicitations à tout l'esprit, toute la gentillesse que vous accordez aux auditeurs et puis votre professionnalisme et plein de choses encore.
Mille merci à vous Bernard, merci mille fois.
Passez
une bonne nuit et puis ne lâchez rien, hein. Téléphonez à la FUB, hein, comme je vous ai dit.
Je vais faire.
Merci
je vous
Bernard.
Tiendrai au courant.
Avec grand plaisir.
Bien.
Au revoir.